Et aujourd'hui, donc, comme prévu, donc, rencontre avec Yannick et Nel, dont beaucoup d'entre vous ont pu entendre la magnifique lecture de passage de son dernier récit « Je cherche l'Italie » qui est paru cette année aux éditions Gallimard. Yannick Enel donc est écrivain. Il a enseigné un temps, mais désormais, selon la formule usuelle, il se consacre à l'écriture. Il a séjourné plusieurs années en Italie, terre du coup à laquelle il est très attaché, d'où aussi ce « Je cherche l'Italie ». Je rappellerai donc quelques titres qui ont marqué le parcours de Yannick Enel. Il a publié dans la collection dirigée par Philippe Sellers « L'infini » chez Gallimard « Cercle », roman qui lui a valu le prix décembre notamment. Et puis en 2009, il publie le fameux Yann Karski à partir de l'entretien donc, dans Shoah de Yann Karski, donc le film de Claude Lanzmann. Il s'en est suivi une polémique dont vous vous souvenez peut-être, qui est restée célèbre, entre ceux qui dénoncent une falsification de l'histoire et ceux qui défendent la liberté de création littéraire, ou entre littérature et histoire. Et c'est intéressant de rappeler que l'historien Patrick Boucheron, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, a pris publiquement position en tant qu'historien en faveur du livre de Yannick Enel. Voilà. Il a publié ensuite donc, Yannick Enel, Les renards pâles, qui est un superbe roman paru en 2013, et enfin donc, ce récit magnifique, Je cherche l'Italie cette année. Voilà, donc il a intitulé sa conférence « Entre solitude et communauté ». Merci à toi Yannick.
Bonjour. Le 29 octobre 1921, Franz Kafka écrit ceci dans son journal. Dans cette zone frontière entre la solitude et la communauté, je me suis établi davantage que dans la solitude elle-même. Entre solitude et communauté, cet intervalle désigne le lieu du déchirement politique, un entre-deux où scintille à la fois l'espérance d'une terre d'accueil et l'endurance d'un exil. Cette frange intermédiaire, cette bordure étroite sur laquelle, sans pouvoir y loger, se tient l'étranger, l'autre ou celui qui est en nous, celui qui vient d'ailleurs et qui n'habite nulle part. Cet étranger qui vient de loin ou qui parle en nous, celui dont le Deutéronome nous dit « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as toi-même été étranger », il arrive que nous en ayons peur, parce que la venue de l'étranger fait aussi revenir en nous les morts. Traverser une frontière, c'est toujours un peu défaire la séparation entre les vivants et les morts, c'est laisser entrer ceux qui ne sont plus, ceux qui ne cessent de s'en aller et de revenir, c'est risquer d'être mélangé aux esprits. Entre solitude et communauté, c'est donc un lieu qui déborde la politique, le lieu d'un combat et d'un murmure, un foyer d'intensité où se découvre une parole. Cette zone frontière dont parle Kafka n'est-elle pas le lieu invisible, brûlant, où la parole illumine et révèle, où elle vous traverse depuis le temps? Alors ce n'est plus seulement un désert, encore moins une terre de désolation, mais un royaume. Le royaume est le contraire de la société, c'est ce que j'appelle la littérature. Voilà, je vais parler de littérature, je vais parler de ce qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur? Je crois qu'au fond, c'est la seule question. Peu de choses tiennent à cœur à chacun de nous. Parmi ces choses, et peut-être en première place, il y a l'émotion illimitée que procure la littérature. Cette émotion, pour moi, est l'autre nom de la pensée. Elle occupe la place de la philosophie. Elle est ma politique, mon pain quotidien. Il y a cet éblouissement lorsque vous apparaît pour la première fois la silhouette à la jambe de bois de Long John Silver dans l'île au trésor. Lorsque vous rencontrez le baron Charlus, Joseph K., Stephen Dedalus, Fabrice Del Dongo, Molloy ou le capitaine Ahab. Lorsque dans Rimbaud vous croisez des centaures séraphiques évoluant parmi les avalanches. Lorsqu'avec Saint-Julien l'Hospitalier, vous massacrez une forêt d'animaux, des sangliers, des paons, des grues, des cerfs, et rentrez au château au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, suffoquant de plaisir, pantelant. Lorsque le 20 janvier, vous partez avec Lens dans la montagne. Lorsque le prince Michkin, dans un moment d'extase et d'épouvante, brise un vase, et qu'alors l'équilibre du monde semble menacé pour toujours. Lorsque vous accompagnez Clarissa Dalloway dans les rues de Londres pour acheter avec elle des fleurs et que vous croisez un fou qui pense qu'un message est caché dans la beauté des mots, que les oiseaux dans les arbres lui parlent en grec et qu'à travers un massif de rhododendrons, il voit le monde prendre feu. Lorsque deux clochards qui attendent Godot comptent les carottes qu'ils trouvent dans leur poche et les étoiles, et toutes les voix mortes. Lorsque dans Robert Walser, vous découvrez que la buée, les larmes et la neige sont une même chose. Lorsque vous tentez avec Georges Perec de faire et de défaire le puzzle de la vie mode d'emploi, et qu'à travers ce puzzle, dans l'interstice entre deux pièces, brille un abîme, crie une horreur, sans que pour autant la pudeur ne s'éteigne. Lorsque vous répétez avec le poète Christophe Tarkos que la drogue est bonne. Lorsque Roberto Bolaño, Zebald ou Laszlo Krasznahorkai vous prodiguent de nouveaux désirs, de nouvelles promesses, de nouveaux chemins, une espérance qui à chaque phrase se relance et change de visage. Lorsque les détails se multiplient comme des annonciations voilées, et que les noms s'entrelacent et vous transmettent une joie de feu. Lorsque le deuil se change en féerie, et que la mort, toutes les morts, se mettent à chanter. Oui, c'est un éblouissement. La littérature ne raconte pas seulement des histoires. Elle ne transporte pas seulement des corps, des villes, des réussites, des échecs, des passions, des malheurs, des informations. En elle, une direction silencieuse établit des connexions avec le temps. Alors un point s'ouvre à la frontière entre la solitude et la communauté. Et à ce point, toutes les époques affluent, le monde se donne. Je cherche un lieu. Ce lieu n'existe sur aucune carte. Il n'appartient à aucun pays. Il s'ouvre à travers la parole, et en un sens, il est lui-même cette parole. Je cherche, en écrivant des livres, à trouver ce lieu où la parole fait l'expérience d'elle-même. Je cherche à établir de phrase en phrase un espace de la parole. Je cherche à faire parler ce puits des magies dont parle Rimbaud dans les Illuminations. Je cherche le point où le langage coïncide avec le sacré. Tous les écrivains que j'aime m'y encouragent. Kafka m'y encourage. Proust m'y encourage. Homère m'y encourage. Voici justement une scène dans Homère. Une des scènes que je préfère dans la littérature. C'est dans l'Odyssée, au chant 2, intitulé « L'assemblée d'Ithaque ». Télémaque vient de convoquer les Achéens. Au moment de parler, dit Homère, sans plus rester assis, il s'avança dans le milieu de l'agora. Debout, il prit le sceptre que lui mettait en main le héros Pisénor, l'homme au sage conseil. Télémaque n'est pas le seul à obtenir le sceptre du roi d'Ithaque. Chacun parle à tour de rôle, et à chaque fois, celui qui prend la parole reçoit le sceptre. Autrement dit, à Ithaque, tout le temps que dure sa parole, celui qui parle a le pouvoir, il devient le roi. C'est la parole qui confère la souveraineté, c'est elle qui donne la royauté. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette puissance que vous confère la parole. Peut-être faut-il lire ce rituel d'Ithaque comme l'exercice exact de la démocratie. Ce serait alors l'approche la plus juste d'une souveraineté multiple, où personne ne prend le dessus sur l'autre, où chacun a la parole, où chacun, en la prenant, participe au royaume, devient ce royaume et règne à égalité. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un se met à parler, Homère répète cette formule, c'est pour le bien de tous qu'il prenait la parole. J'entends dans cette scène de l'Odyssée, d'où Ulysse est absent, une méditation sur le sacre de la parole. La parole consacre celui qui s'y prête. Elle consacre celui qui, le temps de parler, n'est plus que parole, celui qui agit par la parole. Ce sacre, de quelle nature est-il ? Qu'y a-t-il précisément de sacré dans la parole pour qu'elle vous procure une telle faveur ? Car celui qui prend la parole à Ithaque, comme ailleurs, ne règne que pour veiller. C'est une souveraineté qui ne fait pas usage de son pouvoir, c'est une souveraineté d'écoute. La parole donc vous consacre. Quel est ce royaume qui s'allume à Ithaque à partir du sceptre d'Ulysse ? Dans l'Odyssée, il s'appelle le trésor. C'est un espace vide sous le palais. C'est la chambre centrale. Il faut descendre un escalier, comme dans un rite, comme dans une initiation. En ce vaste cellier, dit Homère, sous sa haute charpente, l'or et le bronze en tas, et les tissus en coffre, et les réserves d'huile dont l'odeur embaumait, reposaient près des jarres alignées et dressées au long de la muraille. Les portes de bois pleins aux solides jointures étaient sous double barre, et les nuits et les jours, une dame intendante, Euryclée, fille d'Ops, le fils de Pisénor, veillait l'esprit aux aguets. C'est la petite fille de celui qui attribue le sceptre à l'agora, Pisénor, qui veille sur la richesse. Ainsi pénètre-t-on au cœur du royaume. En l'occurrence, il prend la forme d'un vide, parfumé, gardé par une femme et qui est rempli d'abondance. Ce qui s'offre au cœur de la parole, de plus sacré, c'est donc la richesse. Prendre la parole, c'est veiller sur un trésor, c'est communiquer avec une plénitude féminine. Vous avez remarqué qu'avec le vin, l'huile et les draps sont disposés également dans cette cave l'or et le bronze en tas. C'est-à-dire les armes. Vers la fin de l'Odyssée, lorsque Ulysse en viendra à se venger en massacrant les prétendants, ceux qui précisément voulaient s'emparer de la parole, ceux qui mangeaient le trésor, il ordonnera qu'on descende chercher les armes. C'est Pénélope qui, depuis sa chambre, ouvre avec une belle clé de bronze à la poignée d'ivoire la porte du trésor. Avec ses chambrières, dit Homère, elle alla tout au fond du trésor où le maître, c'est-à-dire Ulysse, déposait ses joyaux avec son or, son bronze et ses fers travaillés. Là se trouvait aussi l'arc à brusque détente et le carquois de flèches. À la sensualité profonde du lieu, tout imprégné de féminité, se joignent les signes masculins du combat. L'arc et les flèches qui transperceront bientôt les prétendants, ceux qui rêvaient de voler le sceptre. au moment où Pénélope introduit la clé, où elle fait jouer les verrous, le battant se met à mugir comme meugle un taureau pâturant dans les prés, dit Homère. Le taureau annonce ici le massacre sacrificiel. Alors on assiste à une scène où Pénélope, restée seule dans l'intimité du trésor, manipule l'arc d'Ulysse. Pénélope, écrit Homère, étendit la main et décrocha l'arc avec le fourreau brillant qui l'entourait. Puis s'asseyant et les prenant sur ses genoux et pleurant à grands cris, la reine dégaina du fourreau l'arc du maître et son cœur se reput de pleurs et de sanglots. Tout se passe comme si le sceptre venait de se changer en arme, comme si la parole phalliquement était devenue sexuelle. On communique ainsi par un appel d'air que le vide nous prodigue avec l'espace érotique. Le troisième lieu qui trame le sacré de la parole dans l'Odyssée, après l'agora, après le trésor, c'est en toute logique la chambre nuptiale de Pénélope et d'Ulysse, c'est-à-dire, et vous savez que l'Odyssée est fondée sur ce secret, ce lit qu'Ulysse a chevillé directement sur une souche d'olivier. Cet olivier, planté au cœur du lieu ulysséen, n'est-il pas en un sens le sceptre ? Un sceptre de bois ? Le royaume, il est là. Ulysse et Pénélope dorment au cœur de la parole elle-même. Un sceptre donne accès à une parole qui donne accès à un trésor, qui donne accès à l'amour. N'est-on pas au cœur d'une merveilleuse zone frontière, dans ce lieu de passage étincelant entre solitude et communauté, où l'étrangeté la plus étrange parfois trouve sa limpidité et où elle s'ouvre à une victoire, à un bonheur? Voilà ce que je cherche. Voilà le parcours des lieux. Voilà le livre. Un livre de toujours en même temps qu'un livre à venir. Un livre qui remet en jeu cette cérémonie qui fait passer de la parole au vide et du vide à l'érotisme. Un livre qui soit lui-même le lieu d'une telle parole. Un livre qui soit parole, vide, érotisme, c'est-à-dire qui soit une agora, un trésor et une chambre nuptiale. Autrement dit, un livre qui soit lui-même l'espace d'un sacre. J'appelle sacré cet élément qui réveille les phrases et fonde un espace libre de la parole. Voici maintenant une deuxième scène. Cette scène n'est pas dans Homère, elle n'est pas dans Kafka, mais dans Proust. Il me semble parfois que Proust et Kafka sont frères. Ce sont deux frères nocturnes qui se rejoignent par l'insomnie. Ils vivent tous les deux sur cette zone frontière, pleine de rêves et de cauchemars, qui sépare la solitude et la communauté, et qui les fait se rejoindre. Ils s'y sont établis tous les deux avec l'étrange campement de leurs phrases, dans le désert de leur nuit blanche, quelque part entre le proche et le lointain, à la distance qui leur convenait le mieux pour accueillir les démons et pour leur échapper. Cette scène, on la trouve vers la fin d'Albertine disparue, ou au début du temps retrouvé, cela dépend des éditions. C'est presque un détail. Cela fait trois lignes, mais ce détail est crucial. Vous vous souvenez que le narrateur, dans la recherche du temps perdu, cherche lui aussi un lieu. Il cherche à retrouver les sources de la Vivonne. Ce projet l'obsède, et bien sûr, tant qu'il cherche à trouver la source de cette rivière d'enfance, il ne la trouve pas. Jamais, écrit-il, dans la promenade du côté de Guermantes, nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la Vivonne. Il se promène alors autour de Combray, du côté de Méséglise, en compagnie de Gilberte, son premier amour, qu'il vient de retrouver par hasard. Ils ont tous deux la quarantaine et recommencent leurs anciennes promenades. Le narrateur s'étonne de trouver la rivière, celle-là même où il se baignait enfant, si mince et si laide. il se désole de n'éprouver plus aucune émotion. Sans doute n'écrira-t-il jamais. Il n'en est pas capable. C'est trop tard. Mais au cours de l'une de ses promenades, le narrateur a la sensation que Gilberte et lui se mettent à descendre dans le mystère d'une vallée parfaite et comme deux insectes qu'ils s'enfoncent au cœur d'un calice bleuâtre. Autrement dit, ils entrent dans une fleur. Qu'y a-t-il de plus étrange que cette expérience érotique ? S'enfoncer au cœur d'un calice bleuâtre, n'est-ce pas approfondir ce qui nous est étranger, faire l'expérience frémissante, colorée, sensuelle de ce qui se dérobe ? N'est-ce pas faire exister sensuellement cette zone frontière dont parle Kafka ? N'est-ce pas d'amour dont il s'agit ? C'est la première étape de cette étrange topologie initiatique qui mène Proust vers ce que j'ai envie d'appeler aujourd'hui le royaume de la parole. Au fond, comme tous les écrivains, Proust a le sceptre. Et comme tous les écrivains, ce sceptre, il ne le possède pas vraiment. Tant qu'il écrit des phrases, le sceptre est là et lui ouvre le trésor, en l'occurrence un trésor érotique qui est celui du temps. Mais d'autres en jouissent aussi, et l'histoire de la littérature n'est que la passation du sceptre à travers le temps. Ainsi, l'expérience de la consécration continue-t-elle chez Proust avec une révélation. Tandis que le narrateur apprend de la bouche de Gilberte que les deux côtés, ceux de Guermantes et de Méséglise, communiquent, révélation qui bouleverse toutes les idées de son enfance, voici qu'il découvre les sources de la Vivonne. Il découvre que ce qu'il prenait dans sa rêverie pour un endroit grandiose, semblable, dit-il, à quelque chose d'aussi extraterrestre que l'entrée des enfers, n'est en fait, écrit-il, qu'une espèce de lavoir carré où montaient des bulles. Lorsqu'au bout de ces centaines d'heures de lecture que demande À la recherche du temps perdu, après ces centaines de pages pleines de miroitements, de nuances et de nuances de nuances, lorsque tendu vers la quête obstinée, sinueuse, labyrinthique du narrateur, concentré sur chacune des minuties qui élaborent son monde et sur le tourbillon qu'elle forme dans le temps, je suis tombé la première fois sur cette petite phrase. J'ai été pris de stupeur, j'ai éclaté de rire. Tout ça pour ça. À la source de la grande rêverie fluviale du narrateur, et de cette bonne jouissance contenue dans la féminité rassurante du mot « vivonne », il n'y avait donc qu'un vulgaire lavoir. L'humour de Proust est là, en une petite phrase, il ridiculise le mythe de l'origine. Mais en même temps, ce petit lavoir m'a plu. Je l'ai tout de suite aimé. Son format parfait, son allure de miniature impeccable, une espèce de lavoir carré d'où montaient des bulles. C'est un lieu pour le temps, un lieu qui donne du temps. La zone frontière est un filet d'eau, mais ce filet d'eau suffit à créer une source, c'est-à-dire un lieu, j'allais dire un dieu. Je riais parce que ce petit lavoir me rappelait combien ce que nous avons aperçu dans l'enfance nous paraît gigantesque. Combien notre maison nous apparaît alors vers 6 ans, vers 12 ans, comme un château. Et la prairie derrière chez nous, un continent inconnu. Et le bosquet au coin de la route, une forêt de brocéliande. Le petit lavoir carré de Proust, dans sa clarté un peu goguenarde, fait figure de zone frontière entre l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte. Cette zone frontière, ce passage secret dans les couloirs du temps, c'est l'étrangeté elle-même, celle à laquelle le simple fait de vivre nous convie. Et la désillusion qui donne à tout ce qu'écrit Proust la tonalité d'un chagrin à la fois terrible et souriant, cette désillusion porte en elle une vérité. Ce n'est pas que les choses soient plus étroites que ce que nous en avons perçu dans l'enfance. Ce n'est pas que la réalité soit plus minuscule que l'espérance. C'est à une autre vérité que nous invite Proust. Le royaume est illimité. Il ne se mesure pas en hectares, ne se réduit à aucun espace. Il est comme le grain de moutarde dont parlent les évangiles. Son immensité est contenue dans la pointe d'une aiguille, dans la lunule d'un ongle, dans le grain de beauté d'une femme aimée. L'insignifiance du lavoir carré n'est qu'apparente. Il n'y a pas de petit royaume. Et puis dans ce lavoir, il y a des bulles. Non seulement la source est active, mais elle est effervescente. Une espèce de lavoir carré où montaient des bulles. Ces bulles me parlent. Sous l'idée de source, il n'y a peut-être qu'un lavoir, mais en même temps, sous ce lavoir, il y a la possibilité d'une effervescence, d'un réveil. Et avec ce réveil, il y a la mémoire du temps. Car à travers le lavoir de Proust, il est possible d'avoir accès au trésor, c'est-à-dire à toute la littérature qui revient. En écoutant ces bulles, j'entends les lavandières de Finnegan Wake de Joyce. J'entends les voix fraîches des nymphes qui accompagnent Nausicaa dans l'Odyssée, lorsqu'elle va laver le linge moiré sur la plage et qu'elle rencontre par hasard Ulysse, dont la nudité sauvage la renverse. Et vous savez que le mot nymphe signifie source en grec. J'entends les rires des jeunes filles en fleurs, celui d'Albertine, qu'une petite blanchisseuse déshabille et caresse avec sa langue sur les bords de la Loire, et à qui, en lui mordant le bras, elle dit « Tu me mets aux anges ». J'entends le gloussement dépravé des Lolitas nabokoviennes, le chatoiement parfumé, soyeux et racoleur des nymphettes qui peuplent comme des démons le désir infernal des hommes. J'entends le ruissellement passionné des femmes qui souffrent et qui jouissent, le palabre bigarré des voix féminines qui, en se racontant des histoires autour des points d'eau où l'on vient faire sa lessive, fondent le récit. Je pense que la littérature a à voir avec cette scène de linge mouillé, scène immémoriale et pourtant familière, tout à la fois profane et sacrée, qui réunit entre solitude et communauté des femmes qui se parlent. Où sont les hommes? Au travail? À la guerre? Ils sont absents, ils le seront toujours. Les voix de femmes s'élèvent, se rencontrent, dialoguent, tissent une mémoire qui n'en finit pas de raconter ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui console les enfants et caresse les morts, ce qui brille à travers le tissu multicolore des draps, des chemises, des robes, qui secrètement sont des livres et grâce aux bulles nous parviennent. Dans le lavoir carré de Proust, comme dans le trésor d'Homère, comme dans la parole elle-même et dans tous les lieux où elle fait l'expérience de son abondance, il y a une provision de féminité, des déesses réveillables, tout un stock de poésie. Le petit lavoir de Proust se révèle ainsi dans sa modestie un emblème pour la littérature, un lieu possible pour l'expérience de la parole. Car ce lavoir est une entrée, comme celle des enfers, mais à l'envers. Peut-être une entrée du paradis, d'un paradis ici-bas qui serait celui du langage. Le lavoir carré de Proust ouvre à chaque instant à ce grand fleuve de langage dont parle Dante et qui est la mémoire de la littérature, cette immense opulence qui semble inépuisable. Si vous trouvez les phrases qui vous mettent en rapport avec le lavoir carré, si vous en trouvez l'accès, alors vous en réveillerez à chaque instant l'ébullition. Car le temps ne coule pas. Il existe dans son retrait à travers un stock de bulles. La vivonne est effervescente, elle est disponible au réveil. C'est peut-être cette disponibilité infinie du temps que manifeste le lavoir carré de Proust. Être capable de changer ses bulles en phrases, c'est avoir le sceptre, comme Ulysse, comme Kafka, comme Proust. Je vais finir avec une dernière scène, une scène très brève. C'est une scène qui est dans Primo Levi, dans un camp d'extermination à Auschwitz. Il raconte ça dans son livre « Si c'est un homme ». Primo Levi a soif. Une congère s'est formée au bord d'une fenêtre. Il sort du baraquement, veut casser le morceau de glace pour étancher sa soif. Un capot allemand l'interrompt. « Pourquoi ?» demande Primo Levi. « Hier ist kein warum », répond le nazi. « Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Le sans pourquoi est le mot d'ordre d'un monde dévasté, la signature de la barbarie, de sa fondamentale et définitive absurdité. Il fait entendre ce qui s'agite au cœur du mal, à savoir la disparition de la cause. Ce qu'il y a de pire avec le mal, c'est qu'il est sans raison. Depuis l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, depuis le double bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki par les Américains, le bon vieux principe de raison, sur lequel la métaphysique occidentale était établie, a été entièrement liquidé. Il suffit de regarder notre époque. Ce qui se joue planétairement a lieu non seulement hors de toute raison, mais également contre la raison. À la question « Pourquoi ?», le monde ne répond plus. Le pourquoi a été évacué comme un vieux truc encombrant, inutile, sans intérêt. Le pourquoi n'est pas rentable. Ce qui règne à la place, c'est le sans pourquoi. N'est-ce pas cela ce qui nous est le plus étranger? N'est-ce pas cette chose terrible, sans contour identifiable, qui nous fait peur? Que la cause soit enterrée, qu'il n'y ait plus que du sans pourquoi? C'est le signe d'un monde qui tourne en rond dans sa propre destruction. Le sens a disparu, et à la place, comme toujours lorsque le sens disparaît, il y a le crime. Le crime sans cause, viral, planétaire. Mais le sans pourquoi possède en même temps une autre face, peut-être plus étrange encore. Il recèle une vérité qui sauve. Deux siècles avant Primo Levi, à Breslau, en Silésie, le grand poète mystique allemand Angelus Silesius a lui aussi parlé du sans pourquoi. Mais chez lui, le sans pourquoi n'est pas le nom du pire. Il nomme ainsi ce qui palpite au cœur du poétique. La rose est sans pourquoi, écrit-il. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Aucune causalité ne détermine la floraison de la rose. Elle existe pour rien. Et cette gratuité coïncide avec ce qu'on nomme la poésie. Elle est ce qui, au cœur du ravage, tient bon. Elle est l'œil du cyclone. Là où Primo Levi fait l'expérience du mal à l'état le plus abject, Angelus Silesius nous invite à écouter ce qui, dans le sans pourquoi, s'offre comme liberté. Comme le calice bleuâtre dans lequel le narrateur de Proust et Gilberte s'enfoncent durant leur promenade et dont la traversée leur ouvre l'accès à la source, la rose du sang pourquoi échappe à toutes les déterminations. Elle est l'irréductible, la part poétique qui, au cœur même de l'invivable, permet de reprendre vie. La rose du sang pourquoi, n'est-ce pas la chose la plus étrange? Je cherche un lieu. L'étrange, c'est mon lieu. Il s'ouvre à mesure que je m'avance. Il se déplie entre solitude et communauté. Voici que je deviens ce lieu. Chaque jour, de plus en plus, je vais vers la rose. En écrivant, je m'enfonce avec une amie vêtue de noir dans un calice bleuâtre. Je rencontre un trésor, un arc, un carquois, un sceptre, puis je m'allonge sur un lit en bois d'olivier. Voici que je descends dans un lavoir carré, j'avance mon visage vers les bulles, je me déshabille, je vois la rose, elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle me tient à cœur. Merci beaucoup.